Radio Wissous.
Radio Wissous.
Votre web radio locale.
Bonjour, Roland, votre compagnie avec Yves à la technique. Aujourd'hui, à l'écoute des livres, et bien en deuxième partie d'émission, j'aurai deux invités. En premier, j'aurai Jack Vukasovic pour « Nettoyage par le vide » paru chez Jean Picolec. Et ensuite, j'aurai Jean-Christophe Porte pour « Oscar Wagner a disparu » chez Hugo Thriller. Mais nous allons commencer, comme à chaque fois, par de la bande dessinée, avec une bande dessinée parue aux éditions Soleil. Il s'agit des Mantes religieuses, le tome 2 des Mantes religieuses, la stratégie de l'araignée. Le scénario est de Bernard Suisen et Sophie Flamand et les dessins de Christian Patti. Alors nous sommes sous le règne de Louis XI, Louis XI qui a pu échapper aux griffes de son éternel ennemi Charles le Téméraire grâce à l'intervention de Blanche Deloye et d'Arnaud Archambel que l'on appelle donc les Mantes religieuses. Dans un précédent album, nous les avons déjà découverts. Et les revoici dans la suite de leurs aventures car le souverain que l'on appelait l'universel araigne a fort à faire pour reconstruire son royaume que convoite toujours le bourguignon Charles le Téméraire. Et pour cela, ce dernier va contracter une alliance avec le roi d'Angleterre Édouard IV. Rappelons-nous que la guerre de 100 ans, même si elle tire à sa fin, n'est pas terminée. Les sœurs du couvent de Sainte-Marie-Madeleine vont devoir reprendre du service de façon peu classique, traumatisant au passage un brave curé lors d'une confession à laquelle il n'est guère habitué. La stratégie de l'araignée va s'avérer efficace et l'intervention de Cocotte, une véritable arachnide, une vraie araignée, ne sera pas inutile. C'est donc un deuxième tome aussi farfelu que le premier pour les amateurs d'histoire revisités de calembours. Je rappelle le titre, Les Mantes religieuses, de tome 2, La stratégie de l'araignée aux éditions Soleil. Nous sommes au Moyen-Âge, et bien nous allons écouter Georges Brassens qui nous interprète le Moyen-Âgeux.
Le seul reproche au demeurant qu'aient pu mériter mes parents, c'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à deux dos. Je suis né, même pas bâtard, avec 5 siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. À que n'ai-je vécu bon sang entre 14 et 1500? J'aurais retrouvé mes copains au trou de la pomme de pin. Tous les beaux parleurs de jargon, tous les promis de mon faucon, les plus illustres seigneuries royaume de truanderie. Après une franche repue, j'eusse aimé toute honte bu, aller courir le cotillon sur les pas de François Villon, poussant la gueuse et la forçant au cimetière des innocents. Mes amours de ce siècle-ci n'en est aucune jalousie. J'eusse aimé le corps féminin des nonnettes et des nonnins qui, dans ces jolis temps bénis, ne disaient pas toujours nenni, qui faisaient le mur du couvent, qui Dieu leur pardonne souvent. Comptez les baisers, s'il vous plaît, avec des grains de chapelet. Ces petites sœurs, trouvant qu'à leur goût, 4 évangiles, c'est pas beaucoup, sacrifiaient à un de plus l'évangile selon Vénus. Témoin l'abbesse de Pourra, qui fut, qui reste et restera la plus glorieuse putain de moine du quartier latin. À la fin, les anges du guet m'auraient conduit sur le gibet, je serai mort, jambes en l'air, sur la veuve patibulaire. En arrosant la mandragore, l'herbe au pendu qui revigore, en bénissant avec les pieds les ribaudes apitoyées. Hélas, tout ça, c'est des chansons, il faut se faire une raison. Les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier des innocents. Le trou de la pomme de pin n'est plus qu'un bar américain. Il y a quelque chose de pourri au royaume de truanderie. Je mourrai pas à mon faucon, mais dans un lit comme un vrai con. Je mourrai pas même pandard, avec 5 siècles de retard. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François, et que j'emporte entre les dents un flocon des neiges d'antan. Ma dernière parole soit quelques vers de Maître François. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux.
Radio Vissou.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a la page Facebook de Radio Vissou que vous pouvez consulter pour trouver l'éphéméride et également des informations sur nos émissions. Nous passons maintenant au livre pour enfants. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un ouvrage pour les tout-petits qui s'appelle tout simplement « Une sieste ». Les textes et les dessins sont de Camille Romanetto. C'est paru chez Little Urban. 32 pages, 14,90 €. Alors pour certains enfants, faire une sieste, c'est une corvée. Mais pour d'autres, c'est le moment de rejoindre le monde de l'imaginaire. Et c'est le cas de la petite Madeleine qui, une fois couchée, va voir de sous sa couverture pointer le museau de Phil qui va l'emmener chez lui pour, avec d'autres amis, partager un goûter constitué d'un gâteau aux noix et d'un bon chocolat chaud. Alors Phil, c'est un doudou, dirons-nous, ce que les enfants appellent leur doudou. Alors ce n'est qu'un rêve, bien entendu, mais fort agréable. Et avec cet album, Camille Romanetto propose aux plus petits une histoire au ton pastel, c'est des couleurs très délicates, empreintes de douceur, et c'est un excellent préambule, pardonnez-moi, à l'entrée dans le sommeil. Je rappelle le titre, Une sieste, textes et dessins de Camille Romanetto chez Little Urban, 32 pages, 14,90 €. Nous allons écouter une chanson de circonstance. Alors, elle est interprétée par Mercedes Sosa. Elle le fut également par le grand Atahualpa Yupanqui. Alors, c'est en espagnol, c'est Duerme Negrito.
Chiquitito, pal negrito, sí, trabajando, sí, trabajando.
que tu mamá está en el campo, negrito, negrito.
Radio Vissou.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
Passons, si vous le voulez bien, à un roman paru, alors une petite maison d'édition, mais qui est très active, ce sont les éditions Tornada. C'est un ouvrage qui s'appelle « Comme une image », l'auteur est Magali Collet. Alors c'est un ouvrage de 251 pages, 9,90 €, un prix très doux, comme l'on dit. Et c'est l'histoire d'une fillette, mais alors là, un peu bizarre. Hein. Lali, c'est une fillette jolie, intelligente et bonne élève. Elle vit avec Carmen, sa mère, et son petit frère depuis que leur père a quitté le domicile familial. Et après le divorce, il est parti vivre avec une dame, Ségolène, qui en plus était une amie de sa mère, et il lui a fait un enfant. Et un week-end sur deux et la moitié des vacances, Lali et Charles, son petit frère, vont chez le nouveau couple. Et bien que le dissimulant, il est évident que la fillette déteste celle qui a brisé le foyer de ses parents. À l'école, elle aime humilier un gamin qu'elle est supposée aider. Et à la maison, elle s'amuse, si l'on peut dire, la nuit à pincer le nez de son frère jusqu'à ce qu'il suffoque. Son apparence d'une petite fille sage comme une image, le titre, je vous rappelle, c'est comme une image, n'est donc qu'une illusion. Et peu à peu, ce qu'on peut considérer comme de la méchanceté, voire de la cruauté, apparaît aux yeux de certains adultes. Au fil des semaines, ce comportement violent va croître jusqu'à un drame en précédant d'autres. Alors on ne parle pas généralement de psychopathie ou de sociopathie pour les enfants, mais le comportement de Lali, eh ben, il est de cet ordre. La séparation des parents et un complexe d'Œdipe exacerbé sont-ils les seules explications ? Ben, c'est difficile à dire. Mais ce roman consacré à cette fillette fascinante, il vous fera probablement frissonner, mais aussi réfléchir sur la psychologie enfantine. Comme une image de Magali Collet chez Tornada Édition. Alors, la chanson que nous allons écouter, c'est un petit peu en rapport avec ce genre de comportement. C'est une chanson de Francis Blanche qui s'appelle « Ça tourne pas rond ». Là, nous allons l'entendre par Odette Laure. Alors, écoutez-la attentivement jusqu'à la chute qui va certainement vous surprendre. Ça s'appelle « Ça tourne pas rond ».
Voyez la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je sais pas ce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond. Petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est le courant d'air. Avec une fourchette à huit, j'aime piquer les fesses du chat grand-mère. Quand je suis toute seule, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. Je regarde dans les livres d'images les dessins des enfants pas sages. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Pareil qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les flots. Pour leur arracher les pétales, je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'avais poussé, pour une fois c'était pas vrai. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
Nous allons terminer cette première partie avant de recevoir successivement nos deux invités avec un roman policier, mais qui en même temps un roman presque, je dirais, une farce macabre, dirons-nous. Son titre, Que celui qui n'a jamais tué me jette la première pierre. L'auteur est Vincent Baguian, c'est paru chez Plon. Alors, si le rôle des médecins est de sauver des vies, le docteur Victor Bonnard s'est donné une autre mission. Il est installé à La Ciotat, il a entrepris de débarrasser l'humanité de certains de ses membres qu'il considère comme étant des salopards. Il va ainsi faire passer de vie à trépas le capitaine des pompiers, dont l'épouse est d'ailleurs sa maîtresse. Pourquoi se gêner ? Et ce soldat du feu pratique d'ailleurs des violences conjugales, ce qui va un petit peu motiver sa mort. Ensuite, ce sera un prêtre pédophile, puis les membres d'un gang de dealers qu'il va tuer au sein même du commissariat. Il va réussir cela. Aucun remords ne trouble son sommeil, car pense-t-il que celui qui n'a jamais tué me jette la première pierre. Le sentiment d'impunité qui l'habite ne risque-t-il pas à l'amener à faire une erreur fatale ? Bien, vous allez le découvrir dans l'ouvrage. Eh bien, Vincent Baguian, l'auteur, il est auteur, compositeur, interprète, lauréat du Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Et il nous propose donc avec cette histoire un roman d'humour noir réjouissant et parfaitement amoral, illustrant la théorie de Thomas de Quincey sur l'assassinat considéré comme un des beaux-arts. Que celui qui n'a jamais tué ne me jette la première pierre, chez Plon, 220 pages, 20 euros. Eh bien, nous allons terminer par une chanson où on parle de meurtre, puisque c'est Yves Montand qui nous chante L'assassin du dimanche. Et ensuite, je vous retrouve avec la deuxième partie de l'émission.
L'assassin du dimanche n'est pas bien dangereux. Il met sa chemise blanche pour tuer le temps comme il peut. Quand il se paye des rengaines sur une machine à sous, c'est un peu de sa semaine qui fout le camp par petits bouts. L'assassin du dimanche s'en va au tir forain, casser des pipes blanches, et ça lui fait du bien. Ou sur une pellicule se fait tirer pour la vie, son portrait bien ridicule pour montrer à ses amis. L'assassin du dimanche se fait descendre un jour par une flèche blanche que lui tire l'amour. Il fait valser sous les branches du côté de Robinson une fille en robe blanche au son d'un accordéon. L'assassin du dimanche ne fait plus que rêver à tous les beaux dimanches qu'il ne veut plus tuer. L'assassin du dimanche devient un amoureux, amoureux des dimanches, des beaux dimanches à deux.
Radio Vissou.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
Vous êtes toujours à l'écoute des livres en compagnie de Roland et je suis maintenant en compagnie de Jack Vukasovic pour un roman venant de paraître chez Jean Picolec, Nettoyage par le vide. Jack Vukasovic, bonjour.
Oui, bonjour aussi.
Alors, vous, je vais brièvement indiquer qui vous êtes. Vous êtes issu d'une famille de poètes d'origine serbe et vous êtes féru de romans noirs, de policiers, d'espionnage. D'ailleurs, on va le constater dans quelques instants. Et c'est votre premier roman, je pense.
Oui, c'est mon premier roman.
Et vous avez décidé d'être édité chez Jean Picolec ou est-ce que c'est un hasard? Comment cela s'est-il passé?
Oui, on peut peut-être partir du principe que c'est un hasard. Je suis tombé sur un auteur qui avait été édité par Jean Picolec et qui était interviewé. Voilà, c'est tout bête, je me suis après renseigné pour pouvoir envoyer mon manuscrit à Jean Picolec.
Alors, voilà. Nettoyage par le vide, c'est donc un roman policier. Et je pense qu'il y a des auteurs de romans policiers que vous aimez particulièrement.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, il y a le classique James Hadley Chase. Ça, c'est certainement peut-être, enfin en tout cas pour moi, un grand, grand classique. Mais après, il y a toute la cohorte de tous les autres. Hein. Oui.
Et comme par hasard, votre roman se passe aux USA et le personnage est américain.
Oui. Alors ça, évidemment, c'est de l'imagination, enfin c'est de la fiction. Mais j'ai eu l'occasion de vivre une grosse année en Floride, côté Fort Lauderdale, et c'est vrai que j'ai apprécié cette vie de Floride. Oui.
Et vous respectez un petit peu une certaine tradition du roman noir en ayant comme héros un détective. Et c'est vrai que les détectives, très souvent, sont dans les romans policiers américains.
Oui, ben c'est peut-être, alors là, je ne sais pas, consciemment, inconsciemment, il y a peut-être une facilité de se lancer sur ce côté détective et voir agence de détective, oui.
Ben, il y a eu beaucoup de films d'ailleurs avec Humphrey Bogart où il était détective, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Et comme par hasard, est-ce que c'est un hasard d'ailleurs, le personnage principal a le même prénom que vous?
Alors non, c'est pas voulu. Enfin, je veux dire, c'est pas voulu. Si, c'est voulu.
Inconsciemment, peut-être.
Oui, mais parce qu'en fin de compte, bon, j'aime bien ce prénom. Alors bon, c'est peut-être pas très modeste de dire ça, mais j'aime bien ce prénom qui peut être prononcé d'ailleurs de différentes façons, hein, parce que souvent, pas beaucoup de gens le prononcent à l'américaine. Ils le prononcent souvent Jacques comme à la française.
Vous voyez. Mais là, c'est Jack.
Oui, parce que voilà, c'est américain. Jack, oui, c'est ça. Je trouve que ça sonne bien. Et puis après, c'est vrai que bon, ça s'enchaîne sur le fait qu'il devient Bob. Bob.
Oui, parce qu'on ne va pas trop raconter. Alors, le problème, bon. C'est quand on interviewe l'auteur d'un roman policier, c'est qu'il faut essayer de ne pas déflorer l'intrigue, ce qui n'est pas toujours très, très facile. Oui. Et dans votre ouvrage, alors, une autre constante de ce genre de roman, il y a la femme fatale, bien évidemment.
Oui. C'est ça, exactement. Donc, comme finalement mon héros est basiquement un hétéro, ce qui peut surprendre à l'époque actuelle, automatiquement, bon, ben, c'est évident, il est attiré par les femmes.
Oui. Mais est-ce que vous pouvez le présenter? Alors, on sait que c'est un ancien de la guerre du Vietnam.
Oui, c'est ça, parce qu'à la base, c'était un professeur, un coach de tennis qui s'est retrouvé... GI au Vietnam, et là, sa vie a complètement basculé. C'est ce que je raconte dans le livre, parce que la guerre, c'est toujours quelque chose de horrible, et d'autant plus quand ces malheureux soldats se retrouvent être drogués de diverses façons, consciemment ou inconsciemment, pour aller se battre.
Vous voyez ? Et comme assez souvent, donc, il va être engagé et lui-même va se trouver manipulé. Et ça, c'est assez fréquent aussi dans ce genre de roman, c'est la manipulation du héros qui, en fin de compte, se fourvoie.
Quand vous dites manipulé piégé. Par une femme.
Alors. Oui, par la femme, oui, tout à fait, par cette femme fatale.
C'est ça.
C'est pour ça que je parle de femme fatale.
Voilà, tout à fait. Et puis, comme je dis, bon, le Jack était jeune à ce moment-là, hein, puisque... Donc, d'où une forme de naïveté, donc piégeable facilement, en tout cas, oui.
Alors, j'ai remarqué dans votre roman qu'il y a de nombreuses citations. Il y a aussi bien des philosophes grecs que Charles Bukowski, ce qui est vraiment un éventail très large.
Oui, alors ça, bon, oui. Parce que, si vous voulez, moi, à la base, mon idée n'était pas d'écrire un polar de plus pour un polar de plus. Vous voyez, ça, je me suis dit, non, je ne vais pas me lancer là-dedans. Il y en a qui ont fait bien mieux, certainement, que moi avant. Et, mais par contre, j'avais l'idée de faire passer beaucoup de messages. Vous voyez, beaucoup de mes idées, beaucoup de messages pour que le lecteur, ça l'oblige à réfléchir, ça l'oblige à cogiter. Donc, en fin de compte, c'est pas que un roman policier. Vous voyez, donc, ce qui fait que je pense que dans le bouquin, j'ai pas compté exactement, mais je dois être à peut-être au moins 150 citations, sentences, proverbes.
Oui, il y a aussi bien Nino de Lenclos, Oscar Wilde, Jules César. Oui, on ne peut pas tous les citer, bien évidemment. Rimbaud, je vois aussi, Arthur Rimbaud.
Oui. Alors, d'ailleurs, allez-y.
Oui, je vous écoute.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, pour revenir sur mon éditeur, là, Jean Picolec, eh ben, c'est vrai que lui, il adore Povels, enfin, ou Powels. Je crois qu'il préférait être appelé Povels. Mmh. Voilà. Et donc là, oui, effectivement, j'ai des citations de Povels. Oui.
Alors, on voyage beaucoup dans ce roman également.
Oui. Alors ça, c'est une forme de raisonnement. Moi, j'adore les voyages, j'adore voyager. Et je pense que un lecteur, quand il est allongé sur son lit à bouquiner ou dans son fauteuil, je pense qu'il apprécie de voyager. Oui. Et surtout sous les tropiques.
Bien sûr. Ben, c'est ce qui se passe puisqu'on se retrouve également aux Antilles, d'ailleurs.
Oui.
Et est-ce que vous verriez éventuellement ce roman, vous avez pensé en faire après un scénario peut-être pour le cinéma?
Oui, c'est tout à fait possible. Dans ma tête, je pense que ça pourrait être un film qui serait stimulant. Oui, tout à fait. Oui, c'est possible.
Bien, nous allons bientôt arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que ce personnage, vous pensez le faire revivre? Est-ce qu'il veut être un héros récurrent?
Alors, je suis en train d'écrire la suite. J'en suis à peu près à la moitié du bouquin de la suite. Mais une fois qu'il aura fait cette suite, il rentrera en sommeil sûrement pour très très longtemps. Et par contre, j'ai créé un autre personnage qui s'appelle David McDavid et qui, lui, par contre, est un héros qui peut partir dans des aventures et qui peut faire 10 bouquins, 20 bouquins. Enfin, vous voyez, voilà. Le héros, ce sera David McDavid. Mais par contre, le Jack devenu Bob, après la suite d'un deuxième bouquin, il s'arrêtera.
Bien, mais écoutez, je rappelle le titre de votre livre, Nettoyage par le vide. L'auteur en est Jack Vukasovic, c'est paru chez Jean Picolec. Eh bien, rendez-vous lorsque le prochain ouvrage paraîtra, je pense qu'il est en cours d'écriture.
Oui, tout à fait, j'en ai écrit à peu près la moitié.
Très voilà. Bien, ben, je vous remercie d'avoir participé à cette émission aujourd'hui et très bonne journée à vous.
Ben, merci Roland-François.
Une partie de ce roman se déroule en Floride. Nous allons rester dans l'ambiance de la Floride, mais des années 60, avec les Beach Boys. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
vibrations of happening with her. Gotta keep those loving vibrations of happening with her. Gotta keep those loving vibrations.
Radio Vissou.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie par téléphone de Jean-Christophe Porte pour Oscar Wagner a disparu. C'est un livre paru chez Hugo Thriller. Jean-Christophe Porte, bonjour.
Bonjour.
Alors, contrairement à mon précédent invité, ce n'est pas votre premier roman, loin de là, puisque vous avez eu d'ailleurs pas mal de prix littéraires dans le domaine du roman policier. Vous avez assez souvent publié Au Masque, qui est une des collections de référence des romans policiers, on peut le dire. Et la collection Hugo Thriller chez Hugo, justement, généralement, ce sont assez souvent des romans étrangers. Et là, par plaisir, j'ai un auteur français, quoiqu'il y en a quelques-uns. J'ai eu, par exemple, Sandrine Destombes il y a quelque temps. Et ce roman, ben, nous allons le découvrir. Mais avant, je voudrais que nous parlions de vos autres activités. Vous avez réalisé de nombreux documentaires.
Alors oui, j'ai fait beaucoup de documentaires et de reportages, d'abord pour des émissions de reportages classiques qu'on avait comme Envoyé spécial ou TF1 reportage ou Capital, voilà. Et ensuite j'ai fait des documentaires qui étaient essentiellement des documentaires de société, d'économie ou d'histoire qui étaient principalement diffusés sur France 5 ou France Télévisions.
Entre autres, il y a eu un documentaire consacré aux enfants juifs sauvés à l'hôpital Rothschild.
Ouais, alors ça c'est mon seul documentaire historique qui a été réalisé en 2014 et qui racontait l'histoire des enfants juifs sauvés à l'hôpital Rothschild, qui était un hôpital prison pour les internés juifs des camps en France pendant l'occupation.
Et vous vous êtes transporté à Mayotte pour Mamoudzou, la première maternité de France.
Oui, ça c'était il y a 15-16 ans. Et la situation était déjà compliquée. Et en fait, tous les jeunes enfants qu'on a vus naître à l'époque, qui ont aujourd'hui 15-16 ans, sont en train de mettre à mal la vie de Mayotte, parce qu'il y a des milliers de gamins qui sont nés et qui ne sont pas pris en charge. Donc c'est la situation explosive.
Ah oui, c'est dramatique la situation de Mayotte. Je m'intéresse beaucoup à l'outre-mer. Et je crois que c'est le département où il y a le plus de problèmes, à mon sens. Bien, mais enfin, nous allons maintenant parler de Oscar Wagner a disparu, paru chez Hugo Thriller. Alors, c'est un roman policier, mais on pourrait presque dire un roman historique par de nombreux aspects. D'ailleurs, je pense que vous avez dû vous pencher sur une sérieuse documentation pour écrire ce livre.
Oui, moi j'écris beaucoup de romans policiers historiques ou de thrillers historiques. Et ce que j'essaye toujours de faire, c'est de mêler l'histoire policière ou l'histoire du thriller à la grande histoire, toujours avec le décor le plus exact possible. Donc c'est vraiment un mélange des deux, en sachant que c'est d'abord un roman policier ou un thriller, mais qui est documenté, donc qui a pour effet de, qui a pour volonté de plonger le lecteur dans l'époque pour qu'il ait vraiment l'impression de vivre les choses dans l'incertitude du moment.
Donc, alors, au début de ce roman, il y a un personnage qui, officiellement, est luxembourgeois, un nommé Steyer, et on va découvrir en fin de compte que c'est lui, Oscar Wagner. Mmh. Et il exerce, dirons-nous, une profession qui, à l'époque, était, à cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, car nous sommes en 1942, j'ai oublié de le préciser, ça c'est très très important, il y a ce qu'on appelait les bureaux d'achat à l'époque.
Alors oui, les bureaux d'achat, c'est, ce sont des organismes commerciaux qui ont été fondés par les Allemands et avec des collaborateurs français au début de la guerre, et en fait qui, alors pour faire simple, hein, qui servaient en fait tout simplement à piller la France, voilà, grâce aux indemnités d'occupation. Donc ça sert de toile de fond un petit peu à cette histoire, entre autres.
Alors il n'y a pas non seulement le, dirons-nous, le, ce genre de, dans le pillage, il y a une autre chose, c'était le rapport entre le mark et le franc qui était vraiment totalement défaveur du franc.
Oui, c'est, je crois que c'était un mark valait 20 francs, ce qui n'était pas du tout sa valeur, et en fait c'était une forme de racket, hein, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'on on achetait beaucoup de francs avec très peu de mark, et c'était avec un pistolet sur la tempe en fait.
Et nous allons découvrir un personnage dont la profession fait qu'a priori il ne doit pas être très sympathique, puisque c'est un proxénète, disons-le tout de suite. Et nous allons justement parler de cela aussi. Et bon, on va découvrir très vite, c'est lui qui va tuer Oscar Wagner. Et en fin de compte, de proxénète, de personnage du milieu, il va presque devenir, il va devenir même, on peut dire, sympathique.
C'était un petit peu le, pas le défi, mais en tout cas la question que je me suis posée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire alors un anti-héros, ça c'est possible, hein, il y en a eu plein, mais un anti-héros qui soit quand même, qui ait quand même des valeurs. Donc c'est un peu compliqué parce qu'il est aussi tiraillé entre ses mauvaises actions et ses valeurs. Mais c'est vraiment ça, oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un voyou, qui a été obligé de se débrouiller, qui prostitue des femmes, mais qui se lance, qui a quand même un certain respect de certaines choses, un certain patriotisme. Il fera pas tout en fait pour de l'argent, contrairement à ses collègues voyous qui eux sont prêts à tout pour de l'argent. Donc ça va créer aussi des ruptures et des antagonismes avec le milieu français, en fait, dont il fait partie lui-même.
Alors, il s'appelle Mo Ferrand, dit Mo les yeux bleus. Voilà sa biographie. Vous parliez alors des gens du milieu, justement, qui se sont... Alors, c'est là également un point très important dans votre ouvrage. Bien sûr, il y a de nombreux voyous qui sont devenus des collabos. Là, on va parler de la fameuse carlingue de Henri Lafont. Mais il y a eu également, dans l'autre camp, des résistants. Et entre autres, une famille connue dans le Midi de la France, c'est la famille Guérini.
Oui, alors vraiment, je me suis appuyé sur la documentation. Alors, les gens du milieu, c'est quoi ? Finalement, c'est des hommes d'affaires qui font des affaires sans respecter les lois. Et en fait, ils sont aperçus qu'ils pouvaient faire énormément d'affaires avec l'occupant allemand. Donc, clairement, la plupart des délinquants de l'époque ont continué leur trafic. En fait, comme les Français ont continué leurs affaires de leur côté, sauf que c'était des trafics avec l'ennemi qui nous occupait. Et puis, effectivement, il y a eu quelques-uns qui ont refusé de sombrer complètement et qui ont continué à servir la France d'une manière ou d'une autre. Donc le héros de l'histoire qui s'appelle Mo les yeux bleus en fait partie. Mais c'était assez mélangé en fait. C'est-à-dire que moi j'ai vu que dans le milieu de l'époque, il n'y avait pas de guerre entre les truands qui étaient un peu plus collabos et les truands qui servaient les gaullistes. Il n'y avait pas du tout cette séparation entre les deux, parce que on appelle ça un milieu, et donc c'est en vase clos et personne ne parle à l'extérieur de ça, quoi. Donc il n'y a pas eu de guerre entre truands collabos et truands résistants.
Mais pour revenir un petit peu aux Guérini, après nous allons venir à l'autre camp, si l'on peut dire, on peut dire qu'ils ont eu... Dirons-nous que Guérini avait comme ami quand même Gaston Defer, qui a été un résistant, ça c'est incontestable. Mais le fait qu'ils se soient connus, bon, je dirais pas qu'il les a protégés, c'en est loin, mais dirons-nous, il y avait quand même une certaine presque connivence entre eux du fait qu'ils avaient été frères d'armes.
Ben, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de liens qui ont été créés. à tous les niveaux, que ce soit du côté collaborateur ou du côté résistant. Et en fait, ces liens ont perduré après la guerre. Donc, on va pas dire qu'il les a protégés ou qu'il a été...
C'est bien ce que j'ai dit. Il les a pas protégés, mais il y avait quand même, cette fraternité d'armes.
Oui, ça, c'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire que quand on a traversé une période comme ça et qu'on a été... qu'on a vécu de telles choses, les liens qui ont été créés se dissolvent pas après. Il y a des exemples de résistants, de voyous résistants qui ont été déportés, qui ont créé des liens avec des authentiques résistants déportés, et ces liens-là ont perduré longtemps après la guerre et ne sont jamais rompus, en fait. Donc oui, c'est des fraternités qui sont créées, et beaucoup de choses qui ont été faites pendant la guerre ont duré ensuite dans les décennies suivantes.
Alors, dans votre ouvrage, nous rencontrons des gens tristement célèbres. Ce sont les gens de la Gestapo française, au premier rang desquels nous trouvons un certain Chamberlain, plus connu sous le nom de Lafont.
Oui, c'était un peu le big boss de la collaboration des voyous pendant la guerre. Et donc, c'était quelqu'un d'assez malin, en fait, et d'assez autoritaire, et donc qui a pris l'ascendant sur le milieu, qui a créé des liens avec les Allemands, d'abord, qu'on appelait de l'Abwehr, c'est le service de renseignement de l'armée. Et ensuite, quand les SS ont pris le pas, il s'est mis au service des renseignements des SS. Et puis, il a énormément profité, il a accumulé des fortunes extraordinaires, il a connu tous les hommes politiques de l'époque, et puis il a été très rapidement fusillé à la fin de la guerre, très 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 vite.
Pour éviter qu'il parle.
Voilà, parce qu'il avait créé des... Enfin, il savait beaucoup de choses, et on n'avait pas du tout envie qu'il en parle, et donc le procès l'instruction et le procès ont été très très rapides.
Alors il faut rappeler aussi que son bras droit était un ancien policier qui avait été renommé, qui avait un grand renom avant d'être viré de la police.
Voilà, c'était l'inspecteur Bonny, qui avait été mêlé à tout un tas d'histoires. C'était un flic médiatique, on va dire, qui était apparu dans l'affaire Stravinsky et dans d'autres affaires très connues avant-guerre.
L'affaire Seznek, entre autres.
Oui, l'affaire Seznek, où il a eu un rôle. On
va dire. Il est fort probable qu'il ait trafiqué des preuves.
Voilà, il a eu un rôle très très suspect. Voilà. C'était un flic pas très moral, on va dire. Et en fait, au moment de la guerre, il est un peu dans une sorte de déchéance, parce qu'il a fini par être radié des effectifs de la police, il me semble.
Oui, c'est sûr, il a été radié.
Voilà. Et en fait, comme c'est un flic qui connaît le fonctionnement de la machine policière, au bout d'un moment, on l'a adjoint à ce fameux Lafont. Pour dire de faire fonctionner le service d'une manière policière et administrative et plus efficace. Voilà, donc c'est et en plus quelqu'un qui a pas eu à la fin un comportement très très brillant aussi, contrairement à Lafont, on peut penser tout ce qu'on veut de lui, mais il est resté digne jusqu'à la fin.
Ah oui, il a simplement dit qu'il souhaitait que son fils soit digne de lui, en quelque sorte, d'ailleurs.
Voilà, mais il s'est pas effondré en disant qu'il regrettait. Il dit j'étais un salaud. Je le reconnais, j'ai bien profité, c'est fini, et voilà.
Et pour en ce qui concerne, on va revenir un instant sur Bonny, son fils, il y a quelques années, a écrit un livre à la défense, si on peut en trouver une, à la défense de son père, mais je ne sais plus chez quel éditeur, mais cela se trouve, je pense, assez facilement. Alors, maintenant, on a parlé des hommes, il y a une femme qui est très, très importante dans cet ouvrage. Alors, c'est une Anglaise, mais on ne sait pas forcément qu'elle est Anglaise, parce qu'elle parle français à la perfection.
Alors oui, je me suis inspiré de... notamment de la famille Mitford, en fait. Après, en romançant un petit peu, donc dans ce roman, il y a vraiment deux personnages principaux. Il y a donc ce voyou qui s'appelle Mo les yeux bleus, et il y a une Britannique qui s'appelle Lizzie Beresford. Alors au début, on pense qu'elle est hollandaise parce qu'elle s'est mariée avec un Hollandais, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'elle travaille pour l'intelligence service, et c'est pour ça qu'elle va finir par croiser la route de Mo les yeux bleus. Parce qu'ils sont mêlés à la disparition de ce Oscar Wagner qui détenait des secrets très importants.
Elle-même donc est dans la résistance ouvertement, mais dans sa famille, il y a eu des collabos, car il ne faut pas oublier qu'il y a eu des nazis britanniques.
Oui, je me suis inspiré vraiment de la famille Mitford, qui est assez connue, hein, où il y avait 5 sœurs, je crois. Et en fait, les parents s'étaient pris d'admiration pour Hitler, comme pas mal de gens en Europe d'ailleurs dans les années 30. Et ils avaient adhéré au parti des fascistes anglais qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Mosley.
Alors Mosley, dont le fils d'ailleurs a eu quelques problèmes il y a quelques années, si mes souvenirs sont exacts.
Voilà, et en fait, alors le parti fasciste anglais, il a été vraiment brisé dès le début en Angleterre, c'est-à-dire qu'on les a quasiment interdits, sans les interdire, mais ils n'avaient plus le droit de rien faire. Mais il y a eu certains Anglais qui ont admiré les partis fascistes et nazis, et bon, il y a eu des Français aussi, il y en a eu dans toute l'Europe.
Ces deux personnages, donc Maud les yeux bleus et Lizzie, vont être amenés à se rencontrer. Elle, on ne peut pas dire qu'elle apprécie au début cette promiscuité.
Ben non, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre. Donc voilà, elle, c'est une aristocrate, donc elle a vraiment une pensée supérieure d'elle-même, même si elle n'est pas arrogante, mais voilà, on lui a toujours dit qu'elle était supérieure aux autres, voilà, donc elle se comporte un peu comme telle. Et puis lui, c'est un voyou qui sort du caniveau, d'une extrême pauvreté, d'une famille corse. Donc évidemment, les deux se... Bah, ils se rejoignent, mais au début, ça marche pas d'évidence entre les deux.
Alors, dans Oscar, Wagner a disparu, je rappelle que c'est paru chez Hugo Thriller, il y a une chose que certaines personnes vont peut-être découvrir. Alors là, c'est la partie, je dirais pas vraiment policière, mais presque espionnage. Ce sont les agents, essentiellement les agents pro-alliés, qui peuvent jouer, pour certains, un double, voire même un triple jeu.
Bah, c'est-à-dire que moi j'essaie dans les romans, j'essaie toujours de replacer le lecteur dans l'incertitude du moment. En fait, en 1942, surtout au début, bah, les choses sont tout à fait incertaines. C'est-à-dire que les Allemands sont vraiment très très forts et on voit pas trop qui va pouvoir les empêcher de prospérer. Et donc il y a tout un jeu de services secrets, de services de renseignement qui s'est mis en place. Donc effectivement, les services secrets de Vichy, de Pétain, continuent par exemple à lutter contre les agents allemands, mais en même temps, ils leur facilitent par ailleurs la tâche. Enfin, c'est vraiment une zone grise. J'essaie de replonger le lecteur dans cette zone grise où personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire, et personne ne sait comment ça va se terminer en fait. Et donc ça met un petit peu les gens à nu, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite qui est-ce qui s'indigne, qui s'indigne pas, qui prend position, qui prend pas position, qui préserve ses intérêts sans s'occuper du reste, et donc voilà, les services secrets sont le reflet de tout ça. Donc c'est toute une zone grise qui est explorée avec ces personnages.
Et j'ai découvert avec un grand étonnement, et ça je vous remercie d'avoir mis ce détail, si l'on peut dire, c'est que bon, il y a eu ce qu'on a appelé la cinquième colonne, c'est-à-dire les Allemands juste avant la guerre qui étaient déjà infiltrés en France, c'est que certains de ces Allemands donc ont participé à la construction de la ligne Maginot, et donc ils devaient envoyer bien évidemment tous les renseignements de l'autre côté en Allemagne.
Oui, oui, oui. Alors c'était à ce moment-là, c'était le service de renseignement de l'armée qui s'appelle l'Abwehr en fait, et qui avait effectivement financé tout un tas de choses en France notamment, en Belgique aussi. Et alors il y avait des industriels, oui, dont certains ont participé à la construction de la ligne Maginot, mais il y avait aussi des gens qui étaient dans les milieux artistiques ou journalistiques, qui étaient là pour faire de l'influence. Et en fait, la France a été très naïve par rapport à ça, comme on a pu être naïf dans les années précédentes par rapport à la Russie, où il y a tout un tas de gens qui nous ont expliqué que Poutine était un type formidable pendant des années. Et voilà, donc c'est un peu vieux comme le monde, mais voilà, c'est toujours la naïveté des démocraties face à des gens qui sont pas du tout naïfs et qui sont pas du tout animés de bonnes intentions par rapport à nous.
Alors, je voudrais que nous ne dévoilions pas trop l'intrigue du roman. Restez un petit peu encore sur le côté historique. Et il y a un des collabos que l'on va retrouver dans les années 70 avec la French Connection.
Oui, ça aussi, c'est des choses qui sont dans le milieu. Les gens font des affaires, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, certains qui avaient travaillé pendant la guerre au service de la Gestapo française se sont retrouvés dans la French Connection, dont un certain... Ricord, qui a fini d'ailleurs par être arrêté par les Américains en Amérique du Sud, mais voilà, qui a continué ses trafics. Alors lui, évidemment, il dit qu'il a jamais rien fait, que c'est une erreur judiciaire monumentale. Mais oui, en fait, les truands ont continué leur trafic après la guerre, quoi. Ils ne sont pas mis brusquement à vouloir devenir petits fonctionnaires ou chefs d'une entreprise de maçonnerie. Ils ont continué leur trafic, donc ils ont continué avec tout ce que ça implique.
Alors, il y a un officiellement, moi, je pensais qu'il avait surtout sévi à l'est de l'Europe, et vous en parlez, c'est Heydrich.
Heydrich, c'était vraiment la tête pensante des services de sécurité de la SS. Donc, il y avait un nom un peu compliqué, mais peu importe. Voilà, qui était un type assez brillant, en fait. Et c'est lui qui, en fait, a fait que la SS a pris le pas sur l'armée dans la prise en main de l'occupation. Voilà, et donc c'était un type très important, et puis ensuite il a été, et c'est pour ça d'ailleurs probablement qu'il a été tué par les Anglais, parce que les Anglais ont envoyé un commando en Tchécoslovaquie où il se trouvait à ce moment-là pour le tuer, parce qu'il y avait beaucoup de chefs qu'ils auraient voulu tuer, mais celui-là était assez redoutable parce que c'était un peu la tête pensante de Himmler, donc des SS, donc un type à éliminer, et qui oui, c'est lui qui a installé les SS en France, et c'est lui qui est venu en France pour déclencher le processus de la Shoah. Donc il avait vraiment un rôle très important.
Et je crois d'ailleurs que Hitler lui avait dit que c'était un peu de sa faute qu'il était mort, parce qu'il refusait de prendre des voitures blindées, il aimait bien parader, montrer son grand courage, et c'est comme ça qu'il s'est fait tuer d'ailleurs.
Ouais, et puis enfin bon, après ça c'est un truc historique, mais il a été tué, enfin je veux dire, les gens qui l'ont, le commando qui l'a attaqué, ils ont eu de la chance en fait, parce qu'il n'est pas mort des blessures, il est mort des suites de l'attentat, mais enfin ça a été très très juste. Et puis ensuite après il y a eu des carnages de représailles, mais oui, ils l'ont tué in extremis, on va dire.
Dernier point historique, si vous le voulez bien, que nous allons aborder. Alors là c'est en même temps sur la partie espionnage, mais c'est surtout l'intoxication. On découvre en fin de compte que les Alliés ont pu livrer sciemment des petits réseaux, dirons-nous, pour intoxiquer l'ennemi.
Alors, ce qui est sûr, c'est que les Anglais sont assez forts dans toutes les manœuvres d'intoxication, et je pense que c'est même les meilleurs, vu ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas à cette époque. Et oui, effectivement, le but, c'était vraiment de faire croire à l'ennemi, donc en l'occurrence Hitler, que le débarquement aurait lieu à un autre endroit ou à une autre date. Et alors, qu'on ait livré des réseaux d'espionnage en France aux nazis pour leur faire croire des choses, ça reste quand même une hypothèse, parce qu'il n'y a jamais eu de preuve de ça, mais c'est pas impossible en tout cas. J'essaye de raccrocher mes romans à une histoire qui est vraiment plausible.
Est-ce que certains de vos personnages sont appelés à devenir récurrents pour un prochain ouvrage ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver...
Parce qu'il y a une porte ouverte à la fin, bien sûr.
Oui, il y a une porte ouverte, mais on va retrouver Mo et Lydie, ça c'est certain. Après, d'autres, on va les retrouver, mais je n'ai pas encore exactement la trame. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins un deuxième tome avec ces deux héros, parce qu'à la fin du livre, c'est un livre qui se termine, mais on a quand même envie de savoir ce qui va se passer juste après, a priori.
Ah, tout à fait. Eh bien, alors, je voudrais vraiment signaler à tous nos auditeurs qui, comme je le dis très souvent, sont appelés à devenir des lecteurs, que cet ouvrage peut aussi bien intéresser les passionnés de romans policiers que les passionnés de romans historiques et d'histoire, d'ailleurs, avec un grand H, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est « Oscar Wagner a disparu » de Jean-Christophe Porte, c'est paru chez Hugo Thriller. Alors c'est un ouvrage qui fait, je vais vous le dire immédiatement, 375 pages. Le prix, j'ai toujours l'habitude de donner le prix pour qu'on puisse le commander chez son libraire, 19,95 €. Et nous allons terminer, comme je le fais toujours, avec une chanson que j'essaye toujours de mettre en rapport avec, dirons-nous, l'ouvrage du jour. Et il y a relativement peu de chansons écrites, enfin chantées en 1942, qui est en rapport avec l'actualité. Mais j'en ai trouvé une de Damia. Alors il faut rappeler qu'à l'époque, bon, avec le moralisme de Pétain, il fallait que la France, que les Français se repentent et ne jouissent pas. C'était la jouissance qui avait été d'ailleurs beaucoup reprochée. Et les bals étaient fermés. Et donc on va entendre de Damia qui nous interprète « Depuis que les bals sont fermés ». Jean-Christophe Porte, je vous remercie beaucoup. Je signale également qu'aujourd'hui même sur le blog de l'émission à l'écoute des livres.over-blog.com, la chronique de cet ouvrage, on peut la trouver. Encore merci à vous et à très bientôt pour un prochain ouvrage.
Merci beaucoup.
Radio Vissou.
Radio Vissou.
Votre web radio locale.
Depuis que les balles sont fermées, depuis que la valse est morte, je vois encore tourner et valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emportent, je ne peux pas vous oublier depuis que les balles sont fermées. Valse légère, trop éphémère, vos souvenirs qui me parlaient d'amour. Valse troublante, tourbillonnante, je vous entends, vous m'obsédez toujours. Depuis que les balles sont fermées, depuis que la valse est morte, je vois encore tourner valser les galants qui me font escorte. Tous les bras qui m'ont enlacé dans un tourbillon m'emporte, je ne peux pas vous oublier. Depuis que les balles sont fermées, valse divine, un front s'incline, puis un baiser volé plein de douceur, dans une étreinte et son empreinte à jamais reste gravée dans mon cœur. Dans un tourbillon m'emporte, je ne peux pas vous oublier depuis que les balles.